Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entre vous.
Daniel Simmer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome de formation, chercheur en hydrologie. Vous avez acquis une expertise internationale en dirigeant notamment le Conseil mondial de l'eau de 2001 à 2008. Vos domaines d'expérimentation et de réflexion sont la gestion de l'eau agricole et le développement des terres agricoles dans le paysage. On a le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de la réalisation d'une série de podcasts par Radiola sur notre alimentation locale. Sur notre planète, la production de notre nourriture dépend de façon cruciale des ressources disponibles en eau. On sait que les pratiques agricoles et la façon de travailler la terre et nos paysages vont et doivent évoluer. Le changement climatique rapide suscite déjà des tensions pour accéder à l'eau qui se fera de plus en plus rare. Vous, depuis que vous avez commencé à travailler sur ces questions de l'eau, ou devrais-je dire plutôt des eaux, il y a plus de 20 ans, quels sont les grands changements dans les orientations stratégiques que vous avez pu observer ?
Bon, d'abord, il faut rappeler, et c'est toujours se rappeler d'une chose, c'est qu'il y a l'eau en général, toute l'eau disponible dans les rivières, dans les lacs, dans les nappes souterraines, et puis il y a l'eau qu'on boit, l'eau potable. Très souvent, on pense, quand on pense eau, on a tendance peut-être à penser à l'eau qui coule dans le robinet. C'est une eau qui a été industrialisée, qui a été transformée, etc. Et c'est une toute petite partie de l'eau qu'on consomme. On consomme 2 litres par jour en buvant. On se lave, on utilise l'eau pour des usages sanitaires à raison de quelques dizaines de litres par jour. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il faut plusieurs milliers de litres d'eau par jour pour produire la nourriture qu'on consomme. Donc ça, c'est un élément important. En gros, en moyenne, dans le monde, on a besoin de 3000 litres d'eau par personne et par jour, donc 3 mètres cubes d'eau par personne et par jour, pour produire notre nourriture. Pourquoi ? Parce que les plantes... consomme, évapore de l'eau pour bien fonctionner, et il faut qu'une plante évapore de l'eau pour qu'elle puisse absorber du gaz carbonique. C'est un petit peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Donc c'est pas que les plantes consomment de l'eau, elles en évaporent pour être ouvertes à la réception du gaz carbonique qui sert à fabriquer les sucres que les plantes produisent. Et donc pour cette raison, il y a une très grande consommation d'eau par l'agriculture qui représente, si on considère uniquement l'eau des rivières, des nappes qu'on utilise pour l'irrigation par exemple, ça représente 80-90% de l'eau qui est utilisée. Et si on regarde l'eau plus généralement, y compris avec l'eau de pluie, ça représente 90 à 95% de toute l'eau qui est nécessaire, parce qu'on produit aussi beaucoup de nourriture avec de l'eau de pluie. Quelles évolutions on peut observer ? Les quantités d'eau nécessaire à la production de notre nourriture, puisque c'est ce qui domine, eh bien, augmente en fonction d'abord de la population, qui augmente considérablement. Et donc, donner quelques ordres de grandeur, pour nourrir 1 million d'habitants, il faut à peu près... 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. Un fleuve, par exemple, un grand fleuve comme le Rhône, va déverser à peu près 50 milliards de mètres cubes d'eau dans la Méditerranée par an. Ça veut dire qu'avec toute l'eau du Rhône, si on l'utilisait entièrement, on nourrirait à peu près 50 millions de personnes. Alors en France, ça ne veut pas dire grand-chose, mais par exemple, le Nil qui transporte à peu près 50 milliards de mètres cubes, pourrait nourrir au maximum 50 millions d'habitants. Si tout était utilisé, ce qui n'est jamais le cas, il y a à peu près 30 millions qui sont utilisés. Or, l'Égypte, aujourd'hui, c'est plus de 90 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que progressivement, avec l'augmentation de la population, l'Égypte, mais pas seulement l'Égypte, des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, se retrouvent avec une limitation évidente de la quantité d'eau disponible pour produire la nourriture du pays. Et ça, c'est l'évolution marquante qu'on ne voit pas trop de toutes ces dernières années. C'est une augmentation importante des besoins en eau. Et donc, quand les pays n'ont pas assez d'eau disponible, eh bien, ils importent des quantités de nourriture produite ailleurs avec de l'eau, qu'on appelle de l'eau virtuelelle, qui est utilisée dans d'autres pays, et ça les rend extrêmement dépendants du commerce international. On le voit aujourd'hui avec l'Ukraine. L'Ukraine qui fournit, avec la Russie d'ailleurs, une bonne partie, et l'Europe, pardon, une bonne partie du blé du Maghreb et de l'Égypte, ça pose un problème immédiat et énorme à ces pays. Dès qu'il y a un conflit, les prix du blé risquent d'augmenter fortement. Et quand on voit la situation, par exemple, de sécheresse qui sévit en ce moment au Maroc, ça risque de poser d'énormes problèmes à ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment une des grosses évolutions des dernières années. On arrive dans de nombreux pays à des limites de ce que l'eau disponible peut produire en termes de nourriture pour le pays.
Il y a également les pratiques agricoles, l'arrivée du maïs, par exemple, je crois, dans les années 60, augmente aussi le besoin en eau. Ça, c'est significatif ou...
Alors, c'est là qu'il faut distinguer l'eau de pluie et l'eau d'irrigation. Quand on produit du blé, l'eau de pluie pendant l'hiver suffit à alimenter en eau le blé qui est produit. Par contre, le maïs, il a la malchance de croître pendant l'été, alors qu'il est plus efficace intrinsèquement en termes d'utilisation de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut moins de litres d'eau pour produire un kilo de maïs que de litres d'eau pour produire un kilo de blé. Mais étant cultivé pendant les périodes sèches, il a besoin beaucoup d'eau d'irrigation. Et ça, c'est effectivement un des problèmes spécifiques, évidemment, à notre production en France. Dans d'autres pays, c'est moins un problème. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un vrai problème, parce que de plus en plus, avec le changement climatique, les ressources en eau disponibles pendant l'été s'amoindrissent. Et donc, pomper plus d'eau pour irriguer, ça pose des problèmes, notamment dans l'ouest et le sud-ouest de la France.
Vous êtes maintenant directeur de l'innovation pour une gestion durable des paysages, des sols.
Des territoires, oui. Je travaille donc dans une organisation qui s'appelle la KIC Climat. La KIC, c'est une grosse communauté européenne de plus de 400 partenaires qui travaille sur l'innovation pour lutter contre le changement climatique. Et je suis aujourd'hui, je suis plus particulièrement responsable de la gestion durable des territoires, on va dire.
Alors, en quoi consiste votre travail ?
Alors, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut transformer en profondeur nos systèmes économiques, nos sociétés. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est de mettre ensemble des solutions, souvent innovantes d'un point de vue, ça peut être technique, mais souvent, c'est pas forcément là que se situe l'innovation, c'est pas dans les technologies qu'on va chercher l'innovation, c'est plus dans la manière dont on va combiner des solutions pour transformer profondément des systèmes. Par exemple, si on veut transformer notre système alimentaire, ben ça ne sert à rien de ne travailler que, par exemple, sur la production. Il faut travailler depuis la production jusqu'à la consommation, impliquer les consommateurs et changer tous les mécanismes, y compris notre perception à nous de la manière dont on mange. pour revenir par exemple à la nourriture plus locale, pour essayer d'avoir moins de protéines animales dans notre alimentation. Donc tout ça doit être traité en même temps, y compris la transformation des sols et la régénération de certains de sols qui ont été surexploités pendant les dernières décennies, et surtout avec l'utilisation par exemple de fongicides, on observe aussi une dégradation des écosystèmes qui peuplent les sols. Et donc, il y a besoin vraiment de trouver des mécanismes qui changent d'emblée l'ensemble du système. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on cherche à faire à la climat. Donc, je travaille sur l'agriculture et sur la manière dont on peut transformer les systèmes agricoles, mais en allant jusqu'à la consommation et en disant comment on implique les consommateurs. Je travaille sur la forêt, je travaille sur la désertification en Afrique. Et c'est pas uniquement technique, hein, c'est aussi sur les comportements, sur les mécanismes financiers, sur les politiques, l'ensemble des leviers qui permettent de transformer les systèmes.
Et vous travaillez aussi sur le paysage et l'utilisation des terres agricoles, et vous dites que ce dont nous avons besoin n'est pas une politique zéro carbone, mais plutôt une politique zéro pétrole et énergie fossile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre ces deux points de vue ?
Bon, en fait, c'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on réfléchit au changement climatique en termes de réduction de notre utilisation de pétrole, de gaz naturel et donc de carbone, mais de carbone fossile. Or, on fait partie, nous, de l'économie du carbone. On est fabriqué grâce à du carbone. Et donc, progressivement, je pense qu'il faut qu'on évolue et qu'on arrête de parler un peu abruptement du carbone, mais qu'on distingue bien le carbone fossile, qui est celui qu'on doit diminuer, et qu'on essaye de voir beaucoup mieux comment on utilise et qu'on recycle le carbone qu'on utilise aujourd'hui, celui que les plantes absorbent en pompant dans l'atmosphère, celui qui est stocké et dans les sols, celui qui permet de produire tout un tas de matériaux qu'on utilise, à commencer par le bois. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des matériaux qu'on utilise, il y en a beaucoup qui sont dérivés du pétrole, et donc il faut qu'on imagine comment on remplace progressivement tous ces matériaux. Donc ces matériaux, à mon avis, ils vont rester avec une base carbone pour une partie d'entre eux, ce qui va poser des vraies questions. Si on veut éliminer les plastiques, on va utiliser du papier peut-être, on va utiliser d'autres types de matériaux, mais souvent ils vont être à base carbone, parce que le carbone, c'est quand même un des éléments essentiels sur lequel on peut jouer et qui a quand même un potentiel un potentiel d'être renouvelable en tout cas. Et donc, c'est un petit peu là aussi, en pensant à ça, qu'on travaille. On est déjà un petit peu dans l'étape d'après. Je dis souvent qu'on a commencé à parler du changement climatique en parlant des émissions liées à la production d'énergie, donc dans les bâtiments, dans le transport. Et puis ensuite, depuis 2015, avec l'accord de Paris, on a rajouté à ça l'idée que peut-être il faudrait aussi tenir compte des puits de carbone, parce que les puits de carbone, si on les augmente, ils vont absorber plus du carbone qu'on émet, du carbone souvent fossile qu'on émet. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les émissions et puis l'absorption de carbone par les puits de carbone terrestres et océaniques. Et puis, aujourd'hui, moi je pense qu'on va dans un... il faut de plus en plus qu'on connecte un petit peu ces deux, les sources et les puits, et tous les matériaux C'est un petit peu les connecteurs entre les sources et les puits. Et les matériaux, on sait qu'on va continuer à extraire un certain nombre de matières pour notre nourriture, pour tout un tas de produits. Mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ce carbone ensuite soit intégré dans des chaînes d'économie circulaire, donc pour qu'on en recycle d'une certaine manière une partie vers les sols, vers différentes utilisations, voire même les intégrer dans des matériaux plastiques, bioplastiques ou biomatériaux de tout type. Et ensuite, il faut qu'on ait aussi une économie qui soit régénérative, c'est-à-dire qu'on recrée en permanence la capacité des milieux de régénérer le carbone et les produits carbone dont on va avoir besoin. Donc il faut vraiment connecter, moi je dis, l'économie, la bioéconomie, l'économie circulaire et l'économie régénérative.
Et vous parlez, vous, d'une vision plus globale, en fait, des écosystèmes. Ce carbone, il est fabriqué, par exemple, par les forêts, notamment, oui. C'est ça, par les plantes.
Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est la photosynthèse. C'est donc le mécanisme de base de tout ça, c'est la photosynthèse, la capacité qu'ont eu les organismes à progressivement à absorber du carbone et à le mettre dans des molécules qui ont fabriqué d'ailleurs à un moment donné le pétrole d'aujourd'hui, celui qu'on utilise. Il vient de l'explosion en fait des végétaux à un moment où l'atmosphère de la planète était très très riche en CO2 et en méthane. Et donc tout ça a été absorbé par les plantes qui se sont mises à proliférer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment d'ailleurs, il y a eu tellement de carbone qui a été absorbé par cette végétation luxuriante que ça a fini par refroidir le climat de la planète. Quand le CO2 est devenu trop faible, en fait, la planète a complètement gelé pendant un moment. Et il a fallu comme ça que la planète s'habitue à gérer le carbone. Et aujourd'hui, grâce à des mécanismes qu'on comprend encore assez mal, mais depuis 20 000 ans, on est arrivé à une situation où justement le niveau de CO2 est resté très très stable et a permis la stabilité du climat dans ces derniers 20 000 ans.
Et au regard de ce temps long sur l'histoire de la planète, actuellement, les niveaux de CO2 augmentent quand même énormément.
Dramatiquement. Ah oui, on augmente les niveaux de CO2 d'une manière à complètement déstabiliser et à sortir de cette zone de confort dans lequel l'humanité a pu se développer. On pense de plus en plus que la stabilité depuis 20 000 ans du niveau de carbone et donc du climat est ce qui a permis aux sociétés de se mettre en place, parce que en fait ça ne changeait pas tout le temps, quoi. Il y avait vraiment une stabilité, donc les gens pouvaient s'installer à un endroit sans que la mer en bord de l'océan et de la mer, sans que tout à coup le niveau augmente de manière importante. Donc de nombreux chercheurs pensent que ça a joué un rôle essentiel dans le développement des sociétés et des civilisations humaines.
Mais alors, j'ai bien compris que l'idée, c'était de connecter aussi les gens entre eux pour inverser un petit peu le paradigme. Mais quelles sont les grandes orientations que prend l'Europe dans ces domaines pour changer les choses ?
Ben, on a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place par la nouvelle commission aujourd'hui. Donc là, je ne saurais pas dire en français, mais la stratégie de la ferme à la fourchette, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, est complètement aligné avec ce qu'on pense à la qui climat, c'est-à-dire avec une vision de transformation systémique, c'est-à-dire on part de ce qu'on produit et on va jusqu'à ce qu'on mange et on essaye de tout transformer pour avoir une nourriture plus saine, pour avoir des sols qui se régénèrent, pour diminuer notre emprise sur la dégradation des sols. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, 72%, je crois, des superficies agricoles servent à la production d'aliments pour le bétail. Donc si on voit quand on se promène, quand on voit ce qui est autour de nous, en fait, ça ne sert pas du tout à notre nourriture à nous, ça sert à nourrir un bétail qui va ensuite être nous nourrir nous. Mais finalement, toute cette production de céréales-là, si on convertissait une partie des sols qui servent à nourrir le bétail à nous nourrir nous, en direct, on diminuerait par 6 ou 7 la quantité, la superficie de terres cultivées et de la production de céréales en Europe. Mais sans doute, et dans le monde, on est à peu près à 50%. Donc aujourd'hui, manger des protéines végétales et remplacer une grande partie des protéines animales qu'on mange par des protéines végétales, ça aurait un impact absolument colossal sur les milieux dans lesquels on vit, sur notre santé, parce qu'on sait très bien que l'excès de protéines animales n'est pas bon pour notre santé. Et donc, oui, ça c'est vraiment une voie sur laquelle il faut travailler. Et donc on peut par exemple produire aussi des produits pour ceux qui sont vraiment accros à la viande. D'abord, il faut éviter de manger de la viande industrielle, mais vraiment essayer de manger de la viande de qualité, produite localement, si possible avec de l'herbe, parce que c'est à ça que servent les ruminants, à valoriser des produits que nous, on n'arrive pas à manger directement. C'est ça, historiquement, les animaux ont fait partie de cette économie circulaire, puisqu'ils mangeaient effectivement de la biomasse que nous, on n'était pas capable de manger. Et puis, ils permettaient grâce à ça de produire des déjections qui étaient ensuite utilisées pour refertiliser les sols et maintenir donc la qualité et la fertilité des sols. Et ça, ça fait partie aussi de la manière dont l'humanité a réussi progressivement à se nourrir et donc à augmenter sa densité, puisque plus on arrive à se nourrir, plus il va y avoir de monde sur la planète.
Si on aborde maintenant cette question de l'eau au niveau local, au niveau régional par exemple, on prend collectivement et localement des mesures de restriction d'utilisation de l'eau depuis maintenant des décennies et les nappes peinent à se remplir par manque de pluie. Qu'est-ce que vous savez, vous, des tensions qui existent sur cet écosystème et plus proche de nous ?
Ce que je peux dire, c'est de manière générale. Le remplissage des nappes, c'est quelque chose qui ne se produit que pendant, je dirais, 2, peut-être maximum 3 mois, pendant les mois d'hiver. Pourquoi ? Parce que pendant tout l'été, donc les plantes pompent l'eau dans les sols et donc il faut en général 2 à 3 mois de pluie à l'automne pour reconstituer les réserves superficielles. Et ce n'est qu'une fois que ces réserves superficielles ont été reconstituées qu'on peut commencer à reconstituer des réserves plus profondes. Et donc, généralement, c'est pas avant le mois de décembre, voire le mois de janvier, qu'on a reconstitué ces réserves superficielles. Et ensuite, si on a peu de pluie pendant les mois janvier, février, mars, et même on peut dire ici janvier, février, et bien après, on peut faire ce qu'on veut. À partir du mois de mars, toute l'eau qui tombe est réabsorbée par les plantes qui la réévaporent immédiatement. Donc on n'arrive plus à recharger les réserves profondes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Deux mois de sécheresse en hiver, c'est la meilleure recette pour avoir une sécheresse en été. Et en ce moment, le Maroc, c'est d'ailleurs un problème qu'on voit dans les pays du Maghreb, c'est que c'est souvent pendant ces mois d'hiver-là que la quantité de pluie a tendance à diminuer, alors qu'à l'automne et au printemps, Les pluies restent à peu près correctes, mais cette période hivernale, elle a vraiment un impact très important. Et au Maroc, c'est d'autant plus important que c'est à ces moments-là que les céréales arrivent à développer leur rendement. Et donc, sans pluie pendant les mois d'hiver au Maroc, en Algérie, etc., on va avoir des rendements extrêmement faibles en céréales. Et chez nous, si on n'a pas de pluie pendant ce qu'on a vu cette année, eh bien on est sûr que les nappes profondes n'ont pas été rechargées.
Quel est le problème le plus important concernant les ressources en eau? C'est sa raréfaction, leur raréfaction, ou sa pollution par les pesticides et les nitrates?
Ça dépend où. Alors d'abord, les ressources en eau ne se raréfient pas vraiment beaucoup. C'est souvent qu'on en utilise plus et qu'on en utilise trop. Donc les notions de pénurie d'eau, c'est vrai qu'il y a une question de quantité totale, mais souvent c'est aussi et surtout le fait qu'on a besoin de plus d'eau, ne serait-ce que pour produire la nourriture d'une population qui n'arrête pas d'augmenter. Et quand on sait, donc, encore une fois, qu'il faut 1 milliard de mètres cubes pour nourrir, j'ai dit 1 million de personnes par an, bon ben, c'est des quantités d'eau qui sont très importantes. Et dans des pays du sud Méditerranée où la croissance démographique reste encore très importante, ça crée des besoins énormes. Chez nous, bien sûr, la croissance de la population est moindre, mais on a quand même des besoins qui ont tendance à augmenter. Et tant qu'on ne diminue pas les superficies qui servent à nourrir les animaux, eh bien, on a besoin de beaucoup d'eau, et on pourrait, ce serait vraiment une bonne chose pour notre santé que de diminuer les protéines animales. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, mais de remplacer une partie des protéines animales par des protéines végétales n'aurait que du bénéfice pour nous, pour notre santé et pour la planète.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2013, je crois, vous rédigez un livre, L'empreinte eau, les faces cachées d'une ressource vitale, dans lequel vous distinguez notamment l'eau réelle de l'eau virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette distinction?
Oui, ben, l'eau virtuelle, c'est simplement l'eau qu'on importe à travers des produits qui ont nécessité eux-mêmes l'utilisation d'eau. Donc, quand on importe de la viande, quand on importe des céréales, on sait très bien que dans les pays où ces produits ont été produits, eh bien, il a fallu beaucoup d'eau. Et donc, on importe avec ces produits-là de l'eau qui a été appelée eau virtuelle. Chez nous, alors, l'Europe est dans une situation très particulière. Elle exporte à la fois beaucoup d'eau virtuelle, donc d'eau nécessaire aux produits agricoles qu'elle exporte, et puis elle en importe aussi beaucoup. Donc on est très dans une situation très particulière, à la fois gros importateurs et gros exportateurs. On exporte beaucoup de blé, mais on apporte aussi beaucoup de viande d'Argentine ou du Brésil. On contribue à déforestation dans ces pays-là, parce que la production de viande, c'est un des éléments, des raisons de la déforestation. Et donc, si on importe, par exemple, de la viande et qu'on exporte des céréales, eh bien, on peut très facilement, même si on n'importe pas beaucoup de viande, comme pour produire 1 kilo de viande, il faut souvent entre 7 et 10 fois plus d'eau que pour produire la même quantité de céréales, on a vite fait d'importer de grandes quantités d'eau virtuelle, et puis alors qu'on en exporte sous forme de céréales en Afrique du Nord, par exemple. Voilà, et donc ces échanges-là, ils sont effectivement très importants, et ils jouent aussi sur la géopolitique aujourd'hui.
Et quand vous parlez d'empreinte eau, est-ce que ça semble ressembler un peu au bilan carbone? Il y a une idée d'échange comme ça du carbone produit par une activité en taxant. Est-ce que ça, c'est un modèle auquel vous réfléchissez?
Alors oui, on a pas mal, donc depuis les années 2000, on a commencé à passer de la notion d'empreinte eau qui était associée essentiellement aux importations et aux exportations à la notion d'empreinte eau qui est beaucoup plus globale et qui regarde l'eau ici et ainsi que l'eau qu'on importe et qu'on exporte. Et l'eau ici, on cherche à regarder notre empreinte sur cette eau à la fois sur l'eau de pluie enfin, et l'eau qui sert à produire notre nourriture, par exemple, via le bilet ou via de l'élevage, et puis ce qu'on appelle l'eau bleue, qui est cette eau qui sert à irriguer, c'est l'eau qu'on peut pomper, etc. Et donc, on essaye de définir l'empreinte eau comme la somme des eaux locales, qu'elles soient bleues ou qu'elle soit verte, donc l'eau de pluie qui est réutilisée pour l'agriculture, et puis l'eau virtuelle échangée avec d'autres pays. Et donc cette approche-là, elle s'est beaucoup développée, et on y a rajouté notre empreinte sur la qualité de l'eau. Donc avec beaucoup plus de difficultés, parce que c'est très difficile de transformer notre impact via des polluants en quantité d'eau, en équivalent de quantité d'eau, pour qu'on ait une idée de notre empreinte en eau. Donc, mais c'est un domaine où il y a encore beaucoup de recherches, beaucoup de travail qui se fait aujourd'hui pour arriver à donner une image la plus exacte possible de la manière dont nos modes de vie ont un impact sur les ressources en eau.
Quelles sont localement les pratiques agronomiques, économes que nous devrions mettre en place, mais alors là vraiment beaucoup plus localement pour permettre une gestion plus durable dans son ensemble?
Tout dépend beaucoup bien sûr de ce qu'on va manger, de ce qu'on veut produire. Et donc ce qu'on va produire localement ne dépend pas uniquement, bien sûr, de ce qu'on mange localement, puisque beaucoup, je pense, des céréales qui sont produites ici, on produit aussi beaucoup de semences ici, donc tout ça, c'est pas pour le local. Et donc, il faut qu'on se rende compte quand même aussi qu'on est inséré dans un système de toute façon beaucoup plus global. Et donc, il faut à la fois réfléchir effectivement localement, mais comprendre qu'on est dans un système plus global, qu'il faut changer aussi si on veut changer ce qui se passe ici. Alors, d'un point de vue plus pratique et à un niveau plus local, si on veut, par exemple, gérer l'eau de manière plus efficace, eh bien, c'est par exemple diminuer les besoins en eau d'irrigation ou gérer l'eau d'irrigation aussi au plus près. On peut très bien, dans un certain nombre de cas, diminuer aussi les quantités d'eau apportées par l'irrigation sans diminuer fortement les rendements. Donc il y a souvent un optimum à trouver. Mais surtout, on peut avoir des pratiques de régénération des sols qui permettent par exemple de stocker du carbone dans les sols et qui permettent d'avoir plus de matière organique, ce qui permet de stocker plus d'eau aussi, puisque en fait, plus un sol est riche en matière organique, plus il va pouvoir stocker de l'eau. Et donc là, toutes les pratiques agroécologiques qui se mettent en place et qui permettent de régénérer justement les sols et de restocker de la matière organique sont plus que bienvenues pour diminuer aussi les besoins ou en tout cas augmenter la résistance des plantes à la sécheresse.
Et comment vos travaux avec le KIK peuvent arriver aux oreilles des agriculteurs qui sont nos voisins? Comment ça communique entre ce niveau, disons, plus européen, voire planétaire, et le local?
Alors, d'abord, soyons très clairs, je ne travaille pas qu'au niveau européen. Par exemple, ce qu'on fait sur le carbone et la matière organique dans les sols, on le fait avec des groupes d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques. Et souvent c'est jusqu'à une vingtaine de pratiques vertueuses qui sont mises en place et qui permettent de stocker, de transformer vraiment la manière dont on produit. Donc ça, on travaille par exemple avec un groupe d'agriculteurs dans le sud-ouest qui produit du maïs et puis avec des groupes en Suède, en Suisse, ils sont très très bons en Suisse, ils font vraiment des choses formidables, aux Pays-Bas. Et puis là, en ce moment, on démarre un projet qui va travailler dans tous les pays d'Europe avec des groupes d'agriculteurs qui vont être mis en contact aussi pour développer des pratiques. Alors, dans ces pratiques, il y en a une qui est sans doute la plus importante, c'est d'avoir un couvert végétal tout au long de l'année. Parce que ça, c'est fondamental, parce que c'est en ayant des plantes qui absorbent du carbone, y compris certaines plantes qui ne servent qu'à ça, à la fois d'ailleurs à récupérer des nitrates à la fin de la saison culturale passée, et puis à continuer à absorber du carbone, c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à stocker plus, à avoir plus de carbone disponible. Mais ça a des coûts, et donc on voit très vite qu'il faut trouver une solution pour que les agriculteurs soient rémunérés pour mettre en place cette pratique toute simple, d'avoir un couvert végétal en permanence. Et bon, il y a des agriculteurs qui ont développé une connaissance incroyable de la manière dont on peut faire pour avoir un couvert végétal permanent et que ce couvert végétal soit aussi un capteur de nitrates, voire même d'absorber des nitrates de l'atmosphère, puisque les légumineuses, par exemple, sont capables de le faire. Et donc, ils utilisent ça comme également des fertilisants pour remplacer les engrais. Mais ils ne font pas que ça, ils font du compost, ils font du, ce qu'on appelle du biochar, donc, qui est un charbon de bois actif qui peut être stocké dans les sols et qui améliore aussi la capacité des sols de stocker de l'eau, de stocker des éléments minéraux et donc des engrais, des choses comme ça. Donc toutes ces pratiques-là, elles sont en train de se développer. Et en ce moment, je suis en contact aussi ici avec quelques agriculteurs. Je pense qu'on va commencer à discuter parce que j'aime bien aussi l'idée, effectivement, que ce que je fais puisse être utilisé dans le territoire. Donc, on a prévu déjà de se voir ce printemps, voire même d'expérimenter des choses.
Daniel Zimmer, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je rappelle que l'on peut trouver votre ouvrage « L'empreinte eau, les faces cachées d'une ressource vitale » aux éditions Charles-Léopold Meyer. Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
Praise to God and the river God's rhythm. Beware of the wicked, cause the wicked pigs lie. Babylon's ways be down with the wicked, but the wicked be drowned in their own dead lives. Gonna flow on the rhythm, slow on the rhythm. A visionary music knows of the rhythm. Sugar cane sweet like a flower in the air.
Radio Ilha, pour média.